Serge Brussolo, Le puzzle de Cher. Date de parution, 1983. Chapitre 1er. Les chaussons de danse jonchaient le sol de la loge en mêlant leurs rubans comme autant de serpentins argentés. Agenouillée au milieu des emballages multicolores, Elsie ouvrait les boîtes, froissait les feuilles de papier de soie à un rythme de plus en plus mécanique. Depuis près d'une heure et demie, elle se tenait accroupie sur la moquette de la loge, fuyant le regard courroucé de la grande Léonora. Des crampes durcissaient ses mollets, et elle avait dû remonter sa jupe à mi-cuisse pour se déplacer plus commodément. Elle n'ignorait pas que le garçon livreur boutonneux, qui se tenait sagement à l'écart des essayages, en profitait pour lorgner sa culotte, mais elle n'avait plus la force de lui adresser la moindre remontrance. Elle sentait la sueur. Une odeur acide, née de sa peur, montait de ses aisselles. Ses cheveux blonds collés à ses joues lui emplissaient la bouche. En passant devant la glace à maquillage, elle remarqua les taches de transpiration qui marbraient son chemisier d'auréole sombre, soulignant chaque sein. Léonora repoussa la 30e paire de chaussons avec un glapissement hystérique et se drapa dans son peignoir de soie rose comme une divinité outragée. « Mon pauvre garçon, cracha-t-elle à l'adresse du livreur, vous direz à votre patron que lorsqu'on veut fabriquer des accessoires de danse, on évite de tailler ses chaussons dans de la toile émerie. C'est inadmissible. Allez vendre votre camelote à des pachydermes, mais par pitié, ne vous adressez jamais à aucune artiste digne de ce nom. » L'adolescent rougit jusqu'aux yeux et plongea sans un mot, rassemblant fébrilement les boîtes mal fermées. Le petit robot porteur, frappé du sigle du chausseur spécialisé, s'avança, cala sur son plateau les 60 paires de souliers de soie et recula dans un chouettement de chenilles bien graissées. Le garçon s'éclipsa sans demander son reste. Léonora s'était dressée, vivante statue de nerfs et de muscles. La colère avait bouleversé son chignon, dont la masse bleue électrique s'affaissait à présent sur sa nuque. « De la soie, rugit-elle. Ils taillent encore leurs chaussons dans de la soie ordinaire. Mais sur quelle planète sommes-nous? Pourquoi pas du cuir à brodequin ou de la toile à sac? » Avisant Elsie qui rajoutait sa queue de cheval en s'observant du coin de l'œil dans un miroir, elle explosa. « Et toi, gourde, vas-tu te remuer? Convoque les autres, vite! Tout cela est ta faute, ne l'oublie pas !» Elsie pâlit et esquissa une brève révérence. Léonora était puissante, elle ne l'ignorait pas. Depuis 5 ans qu'elle se trouvait à son service, elle avait appris à ne pas prendre à la légère les menaces de la danseuse étoile. Comme elle allait ouvrir la bouche, 3 coups timides furent frappés à la porte de la loge et le directeur de l'opéra passa la tête dans l'ouverture. C'était un fangien obèse, à la peau couleur de vieil ivoire. « Cher grand artiste » commença-t-il d'une voix mal affermie. « C'est inutile !» hurla la danseuse. « Je serai inflexible. Sans chaussons convenables, il n'y aura pas de représentation. Vous êtes autant responsable que cette gourde d'habilleuse. À vous de vous débrouiller pour réparer votre bévue. Si à 20 heures, je n'ai toujours pas de souliers, vous pourrez rembourser les places. » Les traits du fonctionnaire s'affaissèrent et le sang se retira de son visage. Elsie crut qu'il allait suffoquer comme un poisson hors de l'eau. « Mais, balbutia-t-il, c'est impossible. Le président de la Ligue terrienne sera là, et tous les notables de Fang. On ne décommande pas de telles sommités. Vous allez occasionner un incident diplomatique sans précédent. Claquer la porte au nez du responsable de la galaxie Bêta. Vous voulez ma mort? Il y a sûrement un moyen de s'entendre. Cher, cher grand artiste. » Assez, vociféra Léonora. Disparaissez et ne revenez qu'en possession de mes chaussons. Et emmenez cette gourde avec vous avant que je ne lui arrache les yeux. » Elsie et le fangien se retrouvèrent dans le couloir obscur. Une odeur de poussière se mêlait à celle plus lourde des cosmétiques entassés au long des tables de maquillage. Le directeur respirait difficilement et la jeune fille remarqua que son nœud papillon pendait de travers. « Mais enfin !» haleta péniblement le gros homme. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Elsie haussa les épaules. On lui a volé ses chaussons de gala. Un admirateur, probablement. Ce n'est pas la première fois qu'on lui dérobe un objet. Mais jusqu'à maintenant, on s'en était tenu à des choses sans importance. Un mouchoir, une houppette, un tube de rouge. Mais enfin, gémit l'autre voix de Fosset, des chaussons, ça se remplace. Elle s'y soupira. Pas cela. Vous ne la connaissez pas. Elle n'utilise que des Schroeder McFarren, des souliers coupés dans une étoffe spéciale, tissés avec les fibres constituant la toile de la grande araignée rouge gagnienne. Toute autre matière lui irrite la peau et la gêne dans l'accomplissement des figures. Et il n'est pas possible de se procurer une autre paire de Schroeder McFarren. Non, la grande araignée rouge gagnienne fait partie des espèces disparues. Elle s'est éteinte il y a plus d'un siècle, victime des défoliants. Il n'existe pas plus d'une douzaine de chaussons taillés dans cette substance. Tous appartiennent bien entendu à des étoiles de la danse qui se jalousent mortellement. Il est donc hors de question que Léonora soit secourue par une de ses consoeurs. L'obèse étouffa un glapissement douloureux. Il faut réagir, trouver une solution. Enfin, ne restez pas planté là, mon petit. Vous la connaissez mieux que moi. Les conséquences. Pensez aux conséquences si elles refusent de se produire. On nous accusera de négligence. Il y aura des sanctions. Remuez-vous. Songez que vous risquez de tout perdre dans cette histoire. Elle s'y serra les dents. Déjà, le gros homme avait tourné les talons et s'éloignait le long du couloir en se dandinant comme un jeune pachyderme. Elle eut un coup d'œil pour sa montre. 18 heures. Une crampe lui sciait la nuque et les épaules. Elle se sentait sale, poisseuse de sueur et de poussière. Elle vit qu'elle s'était rongé les ongles de la main droite jusqu'au sang et que la couture de sa jupe avait craqué sur la hanche, laissant apparaître le nylon blanc de son slip. Elle avait peur, terriblement peur. Un trou palpitant s'était creusé au centre de son ventre et des spasmes nerveux agitaient ses intestins. Léonora appartenait à l'aristocratie d'Almoa et la fortune qu'elle avait amassée au cours de sa carrière d'étoile ne constituait pour elle rien d'autre qu'un pourboire. Elle avait rendu folle 3 habilleuses, une 4e avait fini par se suicider. Les autres avaient eu assez de bon sens pour rendre leur tablier à temps avant que les injures et les humiliations n'aient raison de leur équilibre mental. Toutefois, dans le milieu intergalactique de la danse, on chuchotait que la star s'était arrangée pour que les démissionnaires ne trouvent par la suite aucun engagement. La plupart, disait-on, avaient tristement échoué comme prostituées dans d'infâmes bouges aux abords des camps de transit, là où se déversait à flots continus la lie de l'espace. Voilà pourquoi elle s'y avait peur. Jusqu'à présent, elle avait réussi à éviter tout affrontement direct avec Léonora. Elle avait rusé, courbé les chines, su prodiguer compliments et conseils. La durée de son engagement était considérée par tout le petit peuple des manutentionnaires du spectacle comme un véritable record. Et cette admiration n'allait pas sans jalousie et perfidie. Certaines maquilleuses ne s'étaient d'ailleurs pas privées pour émettre l'idée qu'elle-ci ne devait la longévité de sa carrière qu'au fait qu'elle partageait la couche de la danseuse étoile. C'était faux, bien sûr. Léonora n'avait aucune pulsion sexuelle et la danse suffisait à peupler tout son univers. Jusqu'à leur arrivée sur Fang, les tournées s'étaient déroulées sans trop d'anicroche. Puis, soudain, tout avait basculé aussi sûrement que sous l'assaut d'un tremblement de terre. Les Schroeder McFarren avaient disparu. En découvrant le coffret vide, Léonora avait failli avoir une attaque. Elle avait giflé Elsie à toute volée, puis, la saisissant par les cheveux, lui avait cruellement mordu la bouche. L'inventaire fiévreux de la loge n'avait rien donné. Finalement, après avoir essuyé les insultes les plus ignobles, Elsie s'était résolue à appeler les différents fournisseurs de l'opéra. Mais Léonora avait fait défiler 27 spécialistes en articles de danse, sans fixer son choix sur aucun d'eux. À présent, l'ultimatum prenait des allures de condamnation à mort. Elsie fit quelques pas en titubant. Au centre de la loggia poussiéreuse, les clignotants du standard allumaient une ronde multicolore. Elle se laissa tomber sur le tabouret pivotant, pianota le code professionnel de la Corporation des danseurs et regarda une fois de plus apparaître sur l'écran de la console les numéros des 64 magasins spécialisés recensés sur la planète Fang. Elle appela jusqu'à 18h30, puis, devant les échecs répétés, se résolut à passer un appel intergalactique par satellite. Elle savait qu'une telle communication équivalait à 3 ans de son salaire, mais l'angoisse balaya ses dernières hésitations. À l'idée de se retrouver toute sa vie poursuivie par la haine de Léonora, elle sentait ses os s'émietter et ses articulations sauter hors de leur logement. À 19h, une réponse négative crépita sur le terminal. Aucun possesseur de chaussons Schroeder Mark Farren n'avait consenti à signaler sa présence dans l'espace intersidéral de la Grande Galaxie. Le coût de l'annonce s'élevait à 6 millions de crédits de la Fédération. Elsie crut qu'elle allait s'évanouir. Jamais Léonora ne lui pardonnerait son erreur. Elle songea aux précédentes habilleuses et des images de suicide passèrent sous ses yeux. Un court instant, elle se vit immergée dans une baignoire, les deux poignets tranchés. Puis elle se ressaisit. C'était idiot. Personne ne s'ouvrait plus les veines depuis Belle Lurette. On utilisait maintenant, en guise de rasoir, des sangsues géantes de Falmor. N'importe quelle boutique d'animaux vous cédait, pour une poignée de crédit, un couple de ces grosses limaces violettes. Il suffisait de les appliquer à un endroit stratégique du réseau artériel pour qu'elles vous vident en moins de 2 heures. Et ceci, sans la moindre douleur. C'était décidé, elle achèterait des sangsues de Falmor. La lampe jaune des appels extérieurs émit une série d'éclats brefs. Machinalement, Elsie commuta l'écran du visiophone qui demeura étrangement opaque, comme si une main obstruait l'objectif de la caméra à l'autre bout de la ligne. Une voix d'homme jeune s'éleva du haut-parleur. « Je voudrais parler à... l'habilleuse de la grande Léonora, s'il vous plaît. » Le cœur d'Elsie rata un battement. « C'est moi ? » articula-t-elle au prix d'un effort surhumain. « On m'a dit que vous aviez beaucoup d'ennuis à cause d'un vol. »«
C'est vrai ?»«
C'est vrai ?» balbutia la jeune fille d'une voix blanche. « Je suis très désemparée. » Il y eut un long silence et elle crut une seconde que son interlocuteur avait raccroché. « Écoutez, » fit soudain l'inconnu comme s'il prenait une résolution douloureuse. « Retrouvez-moi dans une dizaine de minutes à la cafétéria de l'aile sud. »
« Elle est fermée, » protesta Elsie.
« Justement, » insista l'homme, « j'ai les chaussons. Venez, ne me faites pas attendre. Je pourrais changer d'avis. » Il y eut un déclic. Elsie se redressa les jambes en coteau. Un espoir insensé faisait vibrer ses nerfs tendus comme des cordes à violon. « Était-ce possible ? Non, elle n'osait y croire. » Elle se mit à courir, remontant les couloirs dans un vacarme infernal. Un ascenseur la jeta enfin au rez-de-chaussée. Elle n'hésita qu'une seconde et poussa la porte à double battant de la salle plongée dans l'obscurité. Au-dessus du comptoir, les chromes d'un percolateur jetaient des éclairs d'acier. Elle entreprit d'avancer en tâtonnant et se meurtrit la cuisse à l'angle d'une table. L'atmosphère était oppressante. Une envie de crier lui emplit la gorge. Elle s'immobilisa, incapable d'aller plus loin. « Vous êtes là ? » gémit-elle avec une voix de petite fille. « Je vous en supplie, répondez. »« Ne vous retournez pas, » fit quelqu'un dans son dos. « Ne cherchez pas à me voir ou je pars immédiatement. » Elle plia la nuque, noyant son visage dans ses paumes en signe de bonne volonté. « Merci, » murmura l'inconnu. « Je vais essayer de m'expliquer. Je ne suis pas un voleur professionnel. Ne vous méprenez pas, ni un fan. J'ai dérobé les chaussons avec l'intention de les revendre à un collectionneur, un de ces malades prêts à tout pour obtenir une relique de leur vedette préférée. Mais au dernier moment, je vous ai vu. Nous avons le même âge. On m'a dit que Léonora vous ferait payer très cher. On m'a raconté ce qui est arrivé aux précédentes habilleuses. Alors voilà, j'ai décidé de vous rendre les souliers. » Elsie laissa échapper un cri de surprise et faillit tourner la tête. Les mots se bousculaient dans sa gorge. Durant le court trajet en ascenseur, elle s'était préparée à toutes les exigences. Elle les avait acceptées par avance.
Elle s'était imaginée couchée sur la table, la jupe rabattue sur le visage, les cuisses ouvertes, blanches. « Que voulez-vous en échange ? » chuchota-t-elle comme au seuil d'une cathédrale. « Si vous voulez que je... »« Rien. Ce sera mon alibi, plus tard quand je ne pourrai plus me payer le luxe de jouer au grand cœur. Adieu. Ne vous retournez pas tout de suite. » Instinctivement, cependant, elle écarta les doigts et, malgré la pénombre, entrevut une silhouette de haute taille qui enjambait le rebord de la fenêtre. La lumière de l'extérieur éclaira une brève seconde le visage de l'inconnu. C'était celui d'un homme jeune, très pâle, au profil en lame de couteau. L'instant d'après, il avait disparu. Elle pivota sur ses talons. Une boîte en mauvais carton occupait le centre de la table. Elle n'osait y croire. Les doigts tremblants, elle en repoussa le couvercle.
Les Schroden McFarren étaient là,
couchés l'un contre l'autre avec leurs tresses de ruban chatoyant. Elle ne put retenir ses larmes. La grande Léonora écouta le récit de son habilleuse, un sourire au coin des lèvres. Le soulagement d'avoir récupéré les précieux chaussons anesthésiait pour quelque temps sa colère. Il est vrai, Kelsey avait légèrement maquillé la vérité et porté le larcin au compte d'un fan éperdu d'admiration. Ce qui ne pouvait qu'enchanter la danseuse étoile, dont l'orgueil ne connaissait pas de limite. Le directeur de l'opéra alla, lui, jusqu'à féliciter la jeune fille pour son habileté et lui glissa un pourboire impérial. À 22 heures, l'illustre Léonora, Schroeder McFarren au pied, entama son premier entrechat sur la scène tendue de pourpre, devant un aéropage constitué de la présidence de la ligne terrienne au grand complet et d'un échantillon fort représentatif de la noblesse fangienne. Elle virevolta jusqu'à 22h30, indifférente à la force d'attraction pourtant élevée du planétoïde, puis, à 22h34, alors qu'elle amorçait une arabesque, les Schroeder McFarren explosèrent subitement dans un ensemble parfait, métamorphosant les pieds de la ballerine en un brouillard de sang, de chair broyée et d'esquilles d'os. Un peu plus tard dans la nuit, un jazzman de renommée intergalactique, attraction vedette du cabaret La Nébuleuse, s'écroula au milieu de son orchestre, les lèvres et la bouche dévorées vives par une ampoule d'acide dissimulée à l'intérieur de sa trompette fétiche. À la minute même à l'hôpital central, un chirurgien fort connu, absorbé dans une opération de l'estomac, découvrit sous la pointe de son scalpel une bombe miniature astucieusement implantée dans les viscères du patient. Bombe qui réduisit en bouillie ses deux mains gantées de nylon aseptisé avant qu'il ait eu le temps d'amorcer un mouvement de recul. Ce qu'on devait nommer plus tard la révolte des Vandales venait de commencer.